voix lue. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Virginia Crespo.
Les académiciens historiens de la fin et du début du XIXe siècle, Pierre Gaxot et Jules Michelet, racontent l'histoire de Louis XIV. Je vous invite à commencer cette émission avec le récit de Pierre Gaxot. Pierre Gaxot était historien et journaliste. Il est né dans la Meuse, à Revigny-sur-Ornain, le 19 novembre 1895. Après une agrégation d'histoire en 1920 et une licence de sciences, il entame une carrière de professeur d'histoire. Pierre Gaxot se liera d'amitié avec Artem Fayard, grâce auquel il fut présenté à Charles Maurras, dont il devint un temps le secrétaire. L'éditeur, Artem Fayard, lui confia ensuite la direction de la collection des grandes études historiques, ainsi que la responsabilité de l'hebdomadaire Candide. Pierre Gaxot fit publier de nombreuses études historiques, la Révolution française, le siècle de Louis XIV, le siècle de Louis XV, Frédéric II, la France de Louis XIV, histoire des Français, histoire de l'Allemagne, et en 1965, aujourd'hui, thèmes et variations. Il défend dans ses ouvrages une vision traditionnelle et classique de l'histoire. Ses choix politiques le situent nettement à droite sur l'échiquier politique. Chroniqueur au Figaro dans les années d'après-guerre, Pierre Gaxot a laissé des souvenirs, « Mon village et moi, les autres et moi », ainsi qu'un ouvrage sur l'Académie française où il fut élu le 29 janvier 1953. Pierre Gaxot meurt le 21 novembre 1982. Lors de sa parution en 1946, au lendemain donc de la Seconde Guerre mondiale, le livre « La France de Louis XIV » de Pierre Gaxot connut un vif succès. Il fut réédité à deux reprises. Pour commencer cette émission sur Louis XIV, nous avons sélectionné des extraits des premiers chapitres de cette œuvre. Pierre Gaxot y peint la prise de pouvoir du jeune roi Louis XIV. Il y peint également son portrait physique et moral, l'avènement du roi Soleil et l'éclat de sa cour. Pierre Gaxot, en entraînant le lecteur dans l'entourage du roi, lui fait revivre ce grand siècle.
Jules Mazarin mourut le 9 mars 1661 en prononçant le nom de Jésus. Le 10, à 7 heures du matin, le roi Louis XIV réunit son conseil. Ils étaient 8 en tout, le chancelier Séguier, le surintendant des finances Fouquet, M. de Lyonne et les deux Brienne, M. de Lavrillière, M. Le Tellier, qui avait charge de l'armée, et M. du Plessis-Guénégaud, qui s'occupait de la maison du roi. Le roi se découvrit, remit son chapeau et, debout, se tourna vers le chancelier. « Monsieur, je vous ai fait assembler avec mes ministres et secrétaires d'État pour vous dire que, jusqu'à présent, j'ai bien voulu laisser gouverner mes affaires par feu, monsieur le cardinal. Il est temps que je les gouverne moi-même. Vous m'aiderez de vos conseils quand je vous les demanderai. » Il leur défendit de rien expédier, fût-ce un passeport, sans lui en avoir parlé. Il ordonna à Fouquet d'employer Colbert, que Mazarin lui avait recommandé, et au jeune Brienne de prendre désormais les ordres de Lyonne sur les affaires étrangères. « La face du théâtre change. J'aurai d'autres principes dans le gouvernement de mon État, dans la régie de mes finances et dans les négociations au dehors que n'avait feu, monsieur le cardinal. » Vous savez mes volontés, c'est à vous maintenant, messieurs, à les exécuter. Il n'en dit pas plus et le conseil se sépara.
Thank you.
Peu après, le roi rencontra l'archevêque de Rouen, qui présidait l'assemblée du clergé. Votre Majesté m'avait ordonné de m'adresser à Monsieur le Cardinal pour toutes les affaires. Le voilà mort, à qui veut-elle que je m'adresse ? À moi, Monsieur l'Archevêque. Ses premières démarches furent très bien faites. Louis XIV avait réussi l'entrée du roi. Tout était tranquille en tout lieu. La guerre était finie depuis 2 ans et la Fronde depuis 7 ou 8. Mais, avec quelques moments de repos, guerre civile et guerre étrangère avaient duré près d'un demi-siècle. Pour la commodité de notre mémoire, nous sommes enclins à chercher partout des périodes et des coupures. Mais ces divisions ont une part d'arbitraire. Les générations ne changent pas tout d'une pièce. Elles ne forment pas des blocs. Elles se pénètrent les unes les autres. Si importante que soit dans l'histoire l'année 1661, elle n'est pas une rupture complète avec le passé. Louis XIV avait 23 ans. Parmi les personnages qui vont paraître sur le théâtre auprès de lui, et dont la postérité a retenu les noms, seuls Louvois, Vauban, Racine et Boileau sont à peu près de son âge. Louvois se glisse à l'ombre de Letellier, son père, et Racine est encore inconnu. Mais Colbert a 19 ans de plus que le roi. Duquesne, Lyonne et Turenne, 27 ou 28. Condé, Pomponne, Croissy, Perrault, Molière, La Fontaine, Bossuet, Madame de Sévigné, Lebrun, Puget, Mignard sont nés entre 1618 et 1628. Descartes est mort depuis 11 ans et Saint-Vincent de Paul depuis quelques mois. Corneille a donné tous ses chefs-d'œuvre. Poussin n'a plus que 4 années à vivre et Pascal une seule. Pour une bonne part, le siècle de Louis XIV a débrouillé ce que son prédécesseur posait en tumulte et évoquait en rêve. Pour une bonne part, il a été fait par des hommes déjà tout formés. Quels hommes ? Des âmes rebelles, des âmes de feu, de grands seigneurs factieux, des prêtres qui ont appelé les Parisiens aux barricades, des bourgeois qui ont tiré sur les soldats du roi, des princes gonflés de cabales et de bizarreries qui ont volé, pillé, trahi, des seigneurs brigands, véritables loups féodaux qui terrorisent encore les montagnes d'Auvergne où la justice ne se risque guère. Mais aussi, de l'autre côté du trône, des commis opiniâtres et obscurs, orgueilleux pour la France et avides pour le maître. De vieux officiers pleins de ressources, dont la fidélité a sauvé le trône. Tout un peuple, enfin. Excédé des luttes civiles, rude et fort, riche de travail et d'enfants. Louis XIV ne règne pas sur une nation assoupie dans l'obéissance, sur 19 millions de bons sujets formés à l'adulation dès le berceau. Il règne sur un peuple qui a fait l'expérience de la révolte et qui appelle l'ordre parce qu'il a vécu dans l'anarchie. S'il y avait eu une tradition monarchique, elle n'aurait montré au souvenir que la division et l'impuissance. En 1661, l'ordre est l'espérance et la nouveauté. Rien ne serait plus faux que de figer les temps qui vont s'ouvrir dans une majesté compassée et fade, comme s'ils étaient nés vieux et sans désir. C'est pour les avoir harnachés de componction et de sublime qu'on a donné à des historiens l'idée de n'en décrire que l'envers, d'en dénombrer aigrement les grossièretés, les extravagances et les mauvaises odeurs. Le siècle vit, c'est-à-dire qu'il combat, invente, ajoute, bâtit et change. Il n'a pas trouvé la sérénité dans son héritage. Les meilleurs la recevront en récompense de leur peine, car l'ordre ne serait rien s'il n'était une victoire sur soi-même, un feu entretenu et contenu à la fois. Le roi était bâti en force, de taille moyenne mais très robuste, large d'épaules, avec une endurance superbe et une prestance qui faisait dire aux contemporains qu'en quelque obscurité que le sort lui fait naître, le monde, en le voyant, eût reconnu son maître. Il ne sentait pas la fatigue, ni le froid, ni la pluie, et il s'étonnait que les autres y fussent sensibles. Quand il allait aux armées, il traînait après lui, en carrosse ouvert, toute une cour de dames qu'il voulait voir à l'arrivée parées et en grand habit, comme à Fontainebleau ou à Versailles. Il excellait à la danse, aux mailles et à la paume. Toute sa vie, il eut besoin de mouvements, de chasses, de promenades à pied et de suées à cheval. S'il ne pouvait souffrir les seigneurs qui demeuraient à Paris sans venir le voir, il pardonnait assez aisément à ceux qui lui préféraient la campagne. Tout le monde s'accordait à le trouver beau. On louait sa prestance, sa taille, son port presque divin, sa manière de marcher et de saluer, tout mesuré, tout décent, noble, grand, majestueux et toutefois très naturel. Dans les choses sérieuses, les audiences d'ambassadeurs, les cérémonies, jamais homme n'en a tant imposé. Et il fallait commencer par s'accoutumer à le voir si, en le haranguant, on ne voulait pas s'exposer à demeurer court. Sa personne avait un charme qui y attirait et un sérieux qui tenait à distance. Cet air royal ne l'empêchait pas d'être jeune, d'aimer les mascarades, les fêtes, les colifichets et la galanterie. Son éducation politique se fit de bonne façon, au jour le jour, par l'expérience des choses, par l'exemple et par la conversation des grands hommes qui l'entouraient. À sa mère, il dut sa religion et l'excellence de ses manières. Cette politesse affable et mesurée qui distinguait l'âge, le mérite et le rang, qui passait dans les moindres mots et qui rendait précieux tout ce qui venait de lui. Pendant des années, il se laissa dire des choses très dures par le maréchal de Bellefond et par Colbert, mais jamais il ne lui échappa rien de désobligeant pour personne. S'il avait à répondre ou à corriger, c'était presque toujours avec un air de bonté qui inspirait le remords et l'envie de mieux faire. Il paraît fier, mais il a les commandements très doux, écrit l'envoyé de Savoie. Et le marquis de Sourches, rien ne paraît difficile quand il s'agit de lui obéir. Mazarin, Turenne et Colbert ont été ses trois meilleurs maîtres. Mais toute sa vie, il profita de vivre en compagnie des personnes qui avaient le plus d'esprit. Il écoutait avec l'ambition de s'éclairer et de s'instruire. Aucun homme n'était plus capable de se former, de se limer, d'emprunter à autrui sans imitation et sans gêne, de faire sien ce qu'il rencontrait de bon et de solide. Saint-Simon affirme qu'il était ignorant. En réalité, Louis parlait l'italien, l'espagnol. À 20 ans, il se remit au latin pour lire dans le texte les dépêches de la chancellerie pontificale. Son précepteur, Péréfix, évêque de Rodez, lui avait fait lire les écrivains de l'Antiquité, des mémoires, entre autres ceux de Comines, et différents traités sur la formation des rois. On lui avait enseigné les éléments des mathématiques, la géographie, en y mêlant les fortifications et l'art militaire, l'histoire, en insistant sur les rois, ses prédécesseurs, surtout sur le règne d'Henri IV. La vie compléta ce que la formation livresque avait de sommaire et d'inachevé.
Vive Henri IV, vive ce roi vaillant, ce diable à quatre a le triple talent, devoir et de battre, et d'être un vert galant, devoir et de battre, et d'être un vert galant.
Louis avait connu l'adversité, presque la gêne. Il avait fui devant l'émeute, couché sur la paille, subi des humiliations, contemplé beaucoup de bassesse. errait de ville en ville à la reconquête du royaume, témoin et enjeu des combats qui se livraient en son nom. Plus tard, il a vu la vraie guerre de ses propres yeux et il s'y est très bien tenu. En 1658, devant Dunkerque, il contracta une grave maladie qu'il dissimula tant qu'il put. On le transporta à Calais, où son mal empira. Dans la nuit du 6 au 7 juillet, il reçut bravement la communion. « Vous êtes homme de résolution, » dit-il alors au cardinal, « et le meilleur ami que j'ai. C'est pourquoi je vous prie de m'avertir quand je serai à l'extrémité. » Il en réchappa. À 16 ans, il fut admis au conseil à des jours réglés, et on commença à exposer devant lui les affaires les plus faciles, avec toutes les circonstances de temps, de lieu et de personne. Peu à peu, les séances devinrent quotidiennes, et il s'y ajoutait des entretiens particuliers avec les ministres. « Je ne laissais pas de m'éprouver en secret et sans confident, » écrit le roi dans ses mémoires. « Raisonnant seul et en moi-même sur tous les événements qui se présentaient, plein d'espérance et de joie quand je découvrais quelquefois que mes premières pensées étaient celles où s'arrêtaient enfin les gens habiles et consommés. » Il parlait bien et avec aisance. Cependant, il n'aimait pas être pris au dépourvu, ayant toujours soin de préparer à l'avance des réponses. Quand un courtisan ou un ambassadeur l'attaquait sur quelque chose à quoi il n'avait pas réfléchi, il répondait toujours par un « je verrai » qui est demeuré célèbre. Il était sensible et pleurait facilement. À la mort de sa mère, il s'évanouit au pied de l'alcôve. Mais la nature lui avait accordé ce qu'un contemporain appelait la principale vertu des rois, c'est-à-dire une profonde dissimulation, en entendant par là non point un penchant mauvais à la fourberie, mais l'art de garder les secrets et celui de mûrir les projets en silence. Il ne lui échappe jamais rien de ce qui se doit sceller, disait de lui sa cousine, la grande mademoiselle. Il a une prodigieuse facilité à cacher ses passions et à montrer l'opposé de celle qui le possède le plus, écrivait un ambassadeur de Venise. Un autre ajoutait que cette prudence confinait parfois à l'extrême duplicité. Cette étonnante et précoce maîtrise n'abandonna jamais Louis. Il supporta avec une constance admirable les plus cruels traitements de ses médecins. À peine opéré ou convalescent, il dînait en public, se montrait aux courtisans, réunissait les ministres parce qu'il fallait que la machine continuât à tourner. Un roi n'a pas le droit d'être malade. Il voulait donner à son peuple l'impression que la maladie, pas plus que la fatigue, ne pouvait l'atteindre. Il a été un héros de la volonté. Toutefois, ni la religion, ni le remords, ni l'orgueil, ni le soin de sa réputation ne purent le détourner de l'adultère. Comme la reine Anne lui reprochait sa mauvaise conduite, il lui répondait avec des larmes de douleur qu'il connaissait son mal, qu'il avait fait ce qu'il avait pu pour ne pas s'abandonner à ses passions, mais qu'il était contraint de lui avouer qu'elles étaient plus fortes que sa raison, qu'il ne pouvait plus résister à leur violence, qu'il ne se sentait même pas le désir de le faire. Il était sensuel, gros mangeur, prompt aux occasions d'amour et sensible à toutes sortes de charmes. Louis XIV s'est confessé à son fils. Rapportant la création d'un duché en faveur de sa maîtresse, il écrit « J'aurais pu, sans doute, me passer de vous entretenir de cet attachement, dont l'exemple n'est pas bon à suivre. » Mais après avoir tiré plusieurs instructions des manquements que j'ai remarqués dans les autres, je n'ai pas voulu vous priver de celles que vous pouviez tirer des miens propres. Je vous dirai premièrement que, comme le prince devrait toujours être un parfait modèle de vertu, il serait bon qu'il se garantît absolument des faiblesses communes au reste des hommes, d'autant plus qu'il est assuré qu'elles ne sauraient demeurer cachées. Et néanmoins, s'il arrive que nous tombions malgré nous dans quelqu'un de ces égarements, il faut du moins, pour en diminuer la conséquence, observer deux précautions que j'ai toujours pratiquées et dont je me suis fort bien trouvé. La première et que le temps que nous donnons à notre amour ne soit jamais pris au préjudice de nos affaires, parce que notre premier objet doit toujours être la conservation de notre gloire et de notre autorité, lesquelles ne se peuvent absolument maintenir que par un travail assidu. Mais la seconde considération, qui est la plus délicate et la plus difficile à pratiquer, c'est qu'en abandonnant notre cœur, nous demeurions maîtres de notre esprit, que nous séparions les tendresses d'amant d'avec les résolutions de souverain, et que la beauté qui fait nos plaisirs n'ait jamais la liberté de nous parler de nos affaires, ni des gens qui y servent. Je vous avouerai bien qu'un prince dont le cœur est fortement touché par l'amour, étant toujours aussi prévenu d'une forte estime pour ce qu'il aime, a peine de goûter toutes ses précautions. Mais c'est dans les choses difficiles que nous faisons paraître notre vertu. Ce roi absolu et laborieux, presque divinisé par ses sujets, mais durement assujetti à son propre devoir, la France entière l'attendait. Fatigue de l'anarchie, fatigue de la dictature ministérielle, besoin d'un plus grand bien-être, désir d'aimer, espérance d'un grand règne, sentiment vague et fort des chances de la nation. Tout concourait. Il aurait fallu à Louis je ne sais quelle paresse d'esprit, impossible même à imaginer pour se soustraire à cet appel. Comme ses contemporains, il pensait que les rois ont été institués par Dieu pour le gouvernement des hommes, mais il savait aussi que tous les droits viennent de Dieu et que la monarchie possède le sien propre, qui est le droit historique, fondé sur ce qu'elle est seule à garantir une entière communauté d'intérêts entre la nation et le gouvernement. « Tant que tout prospère dans un État, a-t-il écrit, on peut oublier les biens infinis que produit la royauté et envier seulement ceux qu'elle possède. L'homme naturellement ambitieux et orgueilleux ne trouve jamais en lui-même pourquoi un autre lui doit commander, jusqu'à ce que son besoin propre le lui fasse sentir. Mais ce besoin même, aussitôt qu'il a un remède constant et réglé, la coutume le lui rend insensible. Ce sont les accidents extraordinaires qui lui font considérer ce qu'il en retire ordinairement d'utilité et que, sans le commandement, il serait lui-même la proie du plus fort. Il ne trouverait dans le monde ni justice, ni raison, ni assurance pour ce qu'il possède, ni ressources pour ce qu'il avait perdu. Et c'est par là qu'il vient à aimer l'obéissance, autant qu'il aime sa propre vie et sa propre tranquillité. Voilà le mot du grand roi, le travail. Personne ne l'a prononcé avec plus de sérieux. Personne n'a fait son métier avec une application plus soutenue. Personne n'a trouvé plus de joie à accomplir son devoir. Pendant 54 ans, il a travaillé sans relâche. 6 ou 7 heures par jour pour commencer, puis 8, puis davantage, sans en éprouver la moindre lassitude. Ce sérieux, cette application et ce contentement inspirent un infini respect. Le sourire qu'on ne peut retenir à certains endroits de ses écrits où il abonde dans l'idée de sa gloire expire sur les lèvres quand on sait qu'il faut des ressorts à toutes les âmes et qu'un roi qui douterait de lui-même serait le pire des rois. Il me semble, dit-il à son fils, que nous devons être en même temps humbles pour nous-mêmes et fiers pour la place que nous occupons. En une autre occasion, il écrit « Le métier de roi est grand, noble et délicieux. » Mais il ajoute aussitôt « Quand on se sent digne de bien s'acquitter de toutes les choses auxquelles il engage. » Et encore, « C'est par le travail que l'on règne, pour cela qu'on règne. » Il y a de l'ingratitude et de l'audace à l'égard de Dieu, de l'injustice et de la tyrannie à l'égard des hommes, de vouloir l'un sans l'autre. Pour sa part, il a du jugement, de la mémoire, un esprit solide et agissant, une intelligence positive et ordonnée qui se plaît aux affaires, qui trouve de l'agrément par l'utilité et qui tient compte des faits dans le plus grand détail. Tout homme qui est mal informé, remarque-t-il, ne peut s'empêcher de mal raisonner. Et une autre fois, dans le monde, les plus grandes affaires ne se font presque jamais que par les plus petites. Comme Colbert lui demande, en 1670, s'il doit faire des relations longues ou courtes, il répond « de longues, le détail de tout ». Toutefois, il n'aime ni le trop de paroles ni la précipitation. Il apporte à ses entreprises la prudence de l'inquiétude préalable. En tout ce qui est douteux, le seul moyen d'agir avec assurance est de faire son compte sur le pis. Il a écrit cette maxime « Se garder de l'espérance, mauvais guide ». Et cet autre « Ne rien exposer au hasard de ce qui peut être assuré par le temps ou par la prudence ». Enfin, avec le siècle, il a pleine confiance dans la raison qui montre toujours le vrai chemin de la gloire. Pourtant, il n'a pas l'âme méditative. Pour gouverner le royaume, il ne se retranche pas dans la solitude d'un cabinet. Son travail, ce n'est pas la lecture silencieuse des dossiers, c'est le soin à s'informer, à retenir les affaires et à les suivre. L'assiduité et l'attention aux conseils, aux audiences, aux entretiens privés avec les ministres et avec les personnes dont il estime les avis. On sait bien que nous ne pouvons pas faire tout, mais nous devons donner ordre que tout soit bien fait. Et cet ordre dépend principalement du choix de ceux que nous employons. Dans un grand État, il y a toujours des gens propres à toutes choses, et la seule question est de les connaître et de les mettre en place. Le règne fut d'abord un printemps, un renouveau de jeunesse, un appel de la gloire et de l'amour. La cour n'avait pas de résidence fixe. Elle allait du Louvre à Saint-Germain, à Chambord, à Vincennes, à Fontainebleau, à Versailles, qui n'était encore qu'un très petit château. Madame de Lafayette a raconté le premier été, passé à Fontainebleau après la mort du cardinal. Rendez-vous secret, baignades en scène, promenades sur l'eau, concerts nocturnes, chansons, bals aux flambeaux, cavalcades en forêt. On se croyait revenu aux beaux jours de François Ier, prince galant. Les premières fêtes furent données pour l'éblouissement de l'Europe. Le 5 et le 6 juin 1662, en l'honneur du dauphin qui venait de naître, un grand carrousel eut lieu entre le Louvre et les Tuileries, sur la place à laquelle il a laissé son nom. Il avait été annoncé 7 mois à l'avance et on était accouru de tous les pays. 15 000 personnes y assistèrent. La reine-mère, Anne d'Autriche, la reine Marie-Thérèse, la reine d'Angleterre, sœur de Charles II, étaient assises sous un dais de satin incarnat liséré d'or. Les quadrilles s'avancèrent au son des fanfares, précédées de héros, de pages et d'écuyers, portant les armes et les devises de leur maître. L'emblème du roi était un soleil accompagné de ces mots « Nec pluribus impar ». Étincelant de pierreries, Louis commandait l'entrée des Romains, vêtus de blanc avec d'immenses panaches rouges. La deuxième entrée était celle des Persans que menait son frère Philippe. La troisième, celle des Turcs, avait pour chef le prince de Condé. La quatrième, commandée par le fils de Condé, le duc d'Enghien, était celle des Américains, c'est-à-dire des sauvages. La dépense atteignit 1 million. Elle fut payée, et au-delà, par l'augmentation de l'octroi de Paris dû au nombre prodigieux d'étrangers. En 1664, les réjouissances se transportèrent à Versailles. Sous le titre « Les plaisirs de l'île enchantée », le programme annonçait « courses de bagues, collations ornées de machines, comédies mêlées de danse et de musique, ballet du palais d'Alcine, la magicienne du Roland Furieux, feux d'artifice et autres fêtes galantes et magnifiques. » Molière joua la princesse d'Élide, le mariage forcé et le premier Tartuffe en trois actes. Lully, en Orphée, conduisait une grande troupe de concertants. Sur un char brillant d'or, d'azur et de 10 autres couleurs, on vit paraître Apollon, entouré des 12 heures du jour et des 12 signes du zodiaque. Vinrent encore des bergers et des bergères, des faunes, Pan, Diane et les saisons. Les contrôleurs de la maison du roi représentaient l'abondance, la joie, la propreté et la bonne chère. Les tables chargées de fleurs furent servies par les jeux, les rises et les délices. La nuit, le jardin s'illuminait d'un nombre infini de flambeaux et de torches. Le palais d'Alcine était bâti au milieu du rondeau. Quand le roi, par la vertu de son anneau magique, eut délivré les victimes de l'enchanteresse, on entendit un grand coup de tonnerre. Il s'éleva du sol des panaches de flammes, des plumes de feu, des milliers d'étoiles colorées. Et le palais s'effondra dans des éclaboussures de lumière. En 1668, durant la nuit du 18 juillet, se déroula le grand divertissement royal. Molière représenta Georges Dandin et Lully le triomphe de Bacchus. L'Italie, jusqu'alors, était réputée pour le faste de ses cérémonies. Il s'agissait, en tout, d'établir la suprématie du roi et de la France.
Jules Michelet est né le 21 août 1798 à Paris. Il est mort le 9 février 1874 à Hyères. La famille de Michelet était de tradition huguenote. Son père était maître imprimeur. Sa mère, Angélique Constance Millet, était originaire d'une famille paysanne, des Ardennes. Ses parents s'imposèrent des sacrifices pour envoyer Jules étudier au célèbre lycée Charlemagne, où il se distingua. Il réussit l'agrégation des lettres et fut bientôt nommé professeur d'histoire. Michelet avait des idées politiques fermes que lui avait transmises son père, un républicanisme fervent, teinté de romantisme libre-penseur. Il était avant tout un homme de lettres et un enquêteur sur l'histoire du passé. Chef de la section historique aux Archives nationales, Michelet se trouvait directement au contact des documents. Son art de raconter reste un des plus vivants qui ait existé. Ses incessantes recherches dans les sources manuscrites et imprimées étaient des plus minutieuses et laborieuses. Mais il appartenait à cette école qui pensait que l'histoire devait être avant tout un cours d'enseignement philosophique. Son imagination vivace, ses préjugés politiques et religieux affirmés lui faisaient voir peut-être tout d'un point de vue très personnel. Sa vision de l'histoire était celle d'un long combat de la liberté contre la fatalité. L'Académie des sciences morales et politiques lui rendra d'ailleurs cet hommage en citant ces mots: héros pour Victor Hugo, charlatan si l'on en croit Sainte-Beuve, Jules Michelet n'oubliera jamais qu'il est sorti du peuple, ce peuple dont il fera le grand acteur de l'histoire de France. Dans les années 1830, Jules Michelet entreprit son chef-d'œuvre monumental, l'histoire de France, qu'il mit 30 ans à achever. Michelet, formé par les écrivains classiques français, n'est pas insensible à la grandeur du siècle de Louis XIV. Mais sur ce règne brillant de mille feux, Michelet jette un sombre regard. Il critique avec virulence cette monarchie absolue et souligne les effets néfastes de ce gouvernement autoritaire. Le soleil, pour lui, est à son couchant. Vous allez pouvoir écouter maintenant des extraits de la préface du tome 13 de l'Histoire de France au XVIIe siècle, suivi d'extraits du tome XIV.
La grande prétention de ce règne est d'être un règne politique. Nos modernes ont le tort de le prendre au mot là-dessus. Le grand fatras diplomatique et administratif leur impose trop. Une étude attentive montre qu'au fond, dans les choses les plus importantes, la religion prime à la politique. Tout le siècle gravite vers la révocation. De proche en proche, on peut la voir venir. Dès la mort d'Henri IV, la France s'y achemine. Elle ne succède à l'Espagne qu'en marchant dans les mêmes voies. Ni Richelieu, ni Colbert n'en peuvent dévier. Ils ne règnent qu'en obéissant à cette fatalité et descendant cette pente. La conquête de quelques provinces qui, tôt ou tard, nous venaient d'elles-mêmes, l'établissement d'un Bourbon en Espagne qui ne servit en rien la France. Ce n'est pas là le grand objet du siècle. La centralisation, si impuissante encore, un majestueux entassement d'ordonnances mal exécutées, n'est pas non plus ce grand objet. Encore bien moins les petites querelles intérieures du catholicisme. Dès 1668, le jansénisme apparaît une impasse, une opposition volontairement impuissante, beaucoup de bruit pour rien. La clameur gallicane s'apaise encore plus aisément. Cette fière église, Bossuet en tête, au premier changement du roi, fait amende honorable à Rome, se montrant ce qu'elle est, la servante de la royauté, rien qu'une ombre d'église qui s'humilie devant une ombre. La révocation n'est nullement une affaire de parole. C'est une lourde réalité, matériellement immense, effroyable moralement. L'émigration fut-elle moindre que celle de 1793 ? Je n'en sais rien. Celle de 1685 fut très probablement de 300 ou 400 000 personnes. Quoi qu'il en soit, il y a une grosse différence. La France, à celle de 1793, perdit les oisifs, et à l'autre, les travailleurs. La terreur de 93 frappa l'individu, et chacun craignit pour sa vie. La terreur de la dragonnade frappa au cœur et dans l'honneur. On craignit pour les siens. Les plus vaillants ne s'attendaient pas à cela, et défaillirent. C'est la plus grave atteinte aux religions de la famille qui ait été osée jamais. Elle eut l'aspect, étrange et inouï, d'une jacquerie militaire ordonnée par l'autorité, d'une guerre en pleine paix contre les femmes et les enfants. Les suites furent choquantes. Le niveau général de la moralité publique sembla baisser. Le contrôle mutuel des deux parties n'existant plus, l'hypocrisie ne fut plus nécessaire. Le dessous des mœurs apparut. Cette succession immense d'hommes vivants qui s'ouvrit tout à coup fut une proie. Le roi jeta par les fenêtres, on se battit pour ramasser. Scène ignoble. Ce qui resta durera pour tout un siècle. C'est l'existence d'un peuple d'ilotes, guère moins d'un million d'hommes, vivant sous la terreur, sous la loi des suspects. Le déplorable dénouement du règne de Louis XIV ne peut cependant nous faire oublier ce que la société, la civilisation d'alors, avait eu de beau et de grand. Il faut le reconnaître. Dans la fantasmagorie de ce règne, la plus imposante qui ait surpris l'Europe depuis la solide grandeur de l'Empire romain, tout n'était pas illusion. Nul doute qu'il n'y ait eu là une harmonie qui ne s'est guère vue avant ou après. Elle fit l'ascendant singulier de cette puissance qui ne fut pas seulement redoutée, mais autorisée. Imitée, rare hommage que n'ont obtenu nullement les grandes tyrannies militaires. Elle subsiste, cette autorité, continuée dans l'éducation et la société par la grâce, par le caractère lumineux d'une littérature aimable et toute humaine. Tous commencent par elle. Beaucoup ne la dépassent pas. Que de temps j'y ai mis. Les 30 années que je resserre ici m'ont, je crois, coûté 30 années. Non que j'y ai travaillé tout ce temps-là de suite, mais dès mon enfance et toute ma vie, je me suis occupé du règne de Louis XIV. Ce n'est pas qu'il y ait alors grande invention, si l'on songe à la petite Grèce, ce miracle d'énergie féconde, à la magnifique Italie, au nerveux et puissant XVIe siècle. Mais que voulez-vous ? C'est une harmonie. Ces gens-là se croyaient un monde complet et ignoraient le reste. Il en est résulté quelque chose d'agréable et de suave, qui a aussi une grandeur relative. J'étais tout jeune que je lisais cet honnête Boileau, ce mélodieux Racine. J'apprenais la fanfare, peu diversifiée de Bossuet. Corneille, Pascal, Molière, La Fontaine étaient mes maîtres.
Que l'on t'étale de chez moi, maître jure et filou. Vas-y, des potences.
Je n'ai jamais rien vu d'aussi méchant que ce maudit vieillard. Et je pense, sauf correction, qu'il a le diable au corps.
La seule chose qui m'avertit et me fit chercher ailleurs, c'est que ces très grands écrivains achèvent plutôt qu'ils ne commencent. Leur originalité, pour la plupart du moins, et d'amener à une forme exquise des choses infiniment plus grandioses de l'Antiquité et de la Renaissance. Rien chez eux qui atteigne la hauteur colossale du drame grec, de Dante, de Shakespeare ou de Rabelais.
Les traîtres, pour vos crimes restez impunis, toi le parjure, être l'incestueux.
On a très justement vanté le caractère littéraire de l'administration d'alors. Ses actes ont une élégance de style, une noblesse peu commune. Tels diplomates écrivent comme Madame de Sévigné. Tout cela est plein d'intérêt, et je ne m'étonne pas de l'admiration passionnée avec laquelle mes amis ont publié ces documents. La valeur en est très réelle. Toutefois, ne l'exagérons pas. Derrière cette pyramide superbe des ordonnances de Colbert, derrière cette diplomatie si vivante et si amusante de Lyon, etc., il y a bien autre chose, une puissance supérieure et souvent contraire, le maître même, son tempérament, son action personnelle qui, par moment, se jette, brusque, sans ménagement, tout au travers des idées de Colbert, n'en tient compte, parfois même semble les ignorer. Exemple, 1668, au moment où le ministre organise laborieusement son grand système commercial et industriel, le roi, bien au-dessus de ses basses idées mercantiles, écrit en Angleterre, comme un Alexandre le Grand, que si les Anglais se contentent d'être les marchands de la terre et de le laisser conquérir, on s'arrangera aisément. Du commerce du monde, les 3/4 aux Anglais et 1/4 à la France, etc. On dira qu'il voulait tromper, amuser les Anglais. Erreur, ce n'est point une ruse et ce n'est pas une boutade. Sa conduite y est conséquente. Leibniz, jeune et crédule en 1672, s'imagine que le roi est un politique, qu'on peut le détourner de sa guerre de Hollande par la facilité de conquérir en Orient. Il ne sait pas ou ne veut pas savoir ce que le roi et Louvois avaient dit. C'est une guerre religieuse. Si elle eût réussi, elle commençait la croisade générale d'Angleterre et d'Europe qu'espérait l'Église de France. Il faut des procédés très divers pour étudier ce règne. Une fine interprétation est nécessaire pour lire certains mémoires. Mais, généralement, c'est par une méthode simple, forte, disons mieux, grossière, qu'on peut comprendre la matérialité du temps. Ne vous y trompez pas. Il s'agit, avant tout d'un homme, d'importance énorme. J'allais dire unique, qui dans les choses décisives, tranche, selon son humeur et son tempérament variable. Avec toute cette masse de documents politiques, on se tromperait à chaque instant si l'on avait une boussole dans l'histoire minutieuse et datée attentivement des révolutions de la cour. Mieux encore, dans le livre d'or où, mois par mois, nous pouvons étudier la santé de Louis XIV, racontée par ses médecins, messieurs Valot, Daquin et Fagon. L'immutabilité de la santé du roi est une fable ridicule. Il faut en croire ces docteurs qui l'ont connu toute sa vie, et non pas Saint-Simon, qui ne l'a vu que dans ces dernières années où il était ossifié et ne changeait plus guère. Nous sommes maintenant si cultivés, si raffinés, que nous revenons difficilement à l'intelligence de cette robuste matérialité de l'incarnation monarchique. Ce n'est plus dans notre Europe actuelle, c'est au Tibet et chez le Grand Lama qu'il faut étudier cela. Du moins pénétrons-nous du Journal des médecins, livre admirable, dont le positif intrépide n'atténue pas l'adoration. Le roi, de page en page, est purgé et chanté. Imbibons-nous encore de la légende de Dangeau, si scrupuleux, si ponctuel à noter cette vie divine en tous ses accidents. Élevons-nous, si nous pouvons, aux amours extatiques de Lauzun pour son maître, lorsque, disgracié, il jure de ne plus se raser. Mieux encore, comprenons les dévotions de la Feuillade, qui, de sa statue, fit chapelle, voulut y mettre un luminaire. La Madone était détrônée. Voilà nos maîtres. Eux seuls font bien comprendre le règne de Louis XIV. Ce qui donne une idée bien forte de l'ascendant de terreur qu'exerçait ce dieu en Europe, c'est la multitude de faits qu'on ose écrire pendant longtemps, même hors de France, et qui ne se relèvent que fort tard, vers la fin du règne. Les souvenirs de la Fronde, qu'il avait fait fuir de Paris, lui rendaient la presse odieuse. Il aménagea peu. Les faiseurs de brochures furent poursuivis à mort. En 94, l'imprimeur d'un pamphlet est pendu, sans procès, sur un simple ordre du lieutenant de police, et le relieur même est pendu. Nombre de personnes, pour la même affaire, sont mises à la question et meurent à la Bastille. On savait que le roi avait les bras longs hors de France et faisait enlever en pays neutre les gens qui parlaient mal ou qui agissaient contre lui. L'enlèvement de Marcilly en Suisse effraya tout le monde. Ce qui domine, au reste, toute méthode, toute critique, ce qui me semble le point de vue supérieur et essentiel, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, pour un des aspects de ce temps, et qui est vrai pour tous. C'est qu'à l'exception de la machine bureaucratique, qui est sa création propre, il achève et finit beaucoup de choses, mais n'en commence aucune. Louis XIV enterre un monde. Comme son palais de Versailles, il regarde le couchant. Après un court moment d'espoir, 1661-1666, les 50 ans qui suivent ont l'effet général du grand parc, tristement doré en octobre et en novembre, à la tombée des feuilles. Les vrais génies d'alors, même en naissant, ne sont pas jeunes. Et quoi qu'ils fassent, ils souffrent de l'impuissance générale. La tristesse est partout, dans les monuments, dans les caractères, âpre dans Pascal, dans Colbert, suave en Madame Henriette, en La Fontaine, Racine et Fénelon. La sécurité triomphale qu'affiche Bossuet n'empêche pas le siècle de sentir qu'il a usé ses forces dans des questions surannées. Tous ont affirmé fort et ferme, mais un peu plus qu'ils ne croyaient. Ils ont tâché de croire, et y sont parvenus à la rigueur, non sans fatigue. Cet attribut divin, commun au XVIe siècle, à pas un n'est resté. La joie, le rire des dieux, comme on l'entendit à la Renaissance, celui des héros, celui des grands inventeurs qui voyaient commencer un monde, on ne l'entend plus depuis Galilée. Le plus fort du temps, son puissant comique, Molière, meurt de mélancolie. En 1689, la France, attaquée par l'Europe, se regarde et voit qu'au bout de 10 années de paix, elle est ruinée. Qui a fait cette ruine ? Deux choses qui arrivent au déclin des empires. Le découragement général et la diminution du travail, la complication progressive de l'administration et des dépenses, telle la fin de l'Empire romain. Ajoutez-y l'amputation énorme que la France vient de faire sur elle-même. En 1661, à l'avènement de Colbert, il n'y avait qu'une cour, toute petite, et qui tenait dans Saint-Germain. Depuis 1670, Colbert fut condamné à faire ce monstrueux Versailles. Lorsque Louvois le remplace comme surintendant des bâtiments, c'est bien pis. On bâtit partout. Au lieu d'une cour, il y en a 10. Et Versailles a fait des petits. Sans parler de monsieur qui réside à Saint-Cloud, ni du Chantilly des Condés, tout le gracieux amphithéâtre qui couronne la Seine se couvre de maisons royales. Le dauphin maintenant est devenu un homme, et il a sa cour à Meudon. Les enfants naturels du roi, de la Vallière, de Montespan, fils et filles, reconnus, mariés, tiennent un grand état. Les Condés et les Orléans épousent ses filles de l'amour, les petites reines légitimées de France. Chacune devient un centre, à sa cour et ses courtisans. De Villers-Cotterêts à Chantilly, ou à Annette, de Fontainebleau ou de Choisy-Assaut, à Meudon, à Saint-Cloud, de Rueil à Marly, à Saint-Germain. Tout est palais, tout est Versailles. Ainsi, de plus en plus, dans l'amaigrissement de la France, le centre monarchique va grossissant, se compliquant. Ce n'est plus un soleil, c'est tout un système solaire, où des astres nombreux gravitent autour de l'astre dominant. Celui-ci pâlirait si de nouveaux rayons ne lui venaient toujours. Versailles, que l'on croyait fini, va croissant, s'augmentant, comme par une végétation naturelle. Il pousse vers Paris des appendices énormes, vers la campagne, l'élégant Trianon, les jardins de Clagny, l'intéressante asile de Saint-Cyr. Enfin, ce qui est le plus grand dans cette grandeur, le Versailles souterrain, les prodigieux réservoirs, l'ensemble des canaux, de tuyaux qui les alimentent, le mystérieux labyrinthe de la Cité des Eaux. Louvois, par son système d'employer le soldat, de le faire terrassier, maçon, put dépasser Colbert. Il gagea d'effacer le pont du Gard et les œuvres de Rome, promit d'amener à Versailles toute une rivière, celle de l'Eure. Des régiments entiers périrent à ce travail malsain. On venait de bâtir pour eux les Invalides. Ils n'en eurent pas besoin. Un aqueduc de 200 pieds de haut, l'aqueduc de Maintenon, inachevé et inutile, fut le monument funéraire des pauvres soldats immolés. Mais rien n'exprima mieux cette terrible administration que la merveille de Marly. Merveille en opposition violente avec le paysage, un démenti à la nature. L'aimable caractère de la Seine autour de Paris, c'est son indécision, son allure molle et paresseuse de libre voyageuse qui se soucie peu d'arriver. D'autant plus dur semblait son arrêt à Marly. Là, la main tyrannique de Colbert, de Louvois, de par le roi, la faisait prisonnière d'État, condamnée aux travaux forcés. Nulle galère de Toulon, avec leur geindre de forçat, n'était si fatigante à voir et à entendre que l'appareil terrible où la pauvre rivière était contrainte de monter. Barrée par une digue, dans sa chute forcée, elle devait tourner 14 roues immenses de 72 pieds de haut. Ces grossières roues de bois, avec des frottements étranges et des pertes de force énormes, mettaient en jeu 74 pompes qui buvaient la rivière, la montaient et la dégorgeaient à 150 pieds de hauteur. De ce réservoir à mi-côte, par 79 autres pompes, l'eau montait encore à 174 pieds. Est-ce tout ? Non, 78 pompes. Par un dernier effort, la poussait au haut d'une tour, d'où un aqueduc de 36 arcades, haut de 69 pieds, la menait enfin à Marly. Un appareil si compliqué, d'aspect énigmatique, qui couvrait la montagne dans une étendue de 2000 pieds, embarrassait l'esprit. Les grincements, les sifflements de ces rouages difficiles et souvent mal d'accord, c'était un sabbat, un supplice. L'ensemble, si on le saisissait, était celui d'un monstre. Mais d'un monstre asthmatique qui n'aspire et respire qu'avec le plus cruel effort. Quel résultat ? Petit, un simple amusement, une cascade médiocre. Le roi, au moment de Fontanges, quand la paix le relança dans les amusements, avait choisi ce lieu sans vue, obscur et dans les bois, pour s'y faire un libre ermitage, échapper à Versailles. Mais sa gloire l'y suivit. Il remplit tout de lui, et plus qu'à Versailles même. C'est l'avantage de ce lieu concentré. Marly n'est pas distrait. Il ne voit que Marly. Le roi n'y voyait que le roi. Le pavillon central, ou du soleil, présidait les petits pavillons des 12 mois. Maussadement rangés, si sa droite, si sa gauche, ils avaient l'air d'une classe d'écoliers qui, sous la main du maître, lorgne de côté la férule et s'ennuie décemment. Dispensé d'étiquette, on n'en était pas moins contraint. Le roi exigeait que devant lui, on fût couvert. Eut-on mal à la tête, il fallait garder son chapeau. Il ne plaisantait pas. Il voulait qu'on fût libre, qu'on s'amusât et qu'on jouât. Grâce à ces pavillons divisés, chacun était chez soi, mais on ne pouvait faire un pas sans être remarqué. Colbert, Louvois, dans cet étroit espace, avaient entassé, étouffé je ne sais combien de merveilles, les beaux fleuves de marbre qu'on voit aux Tuileries, les renommées équestres qui en décorent la grille, les chevaux de Coustou, aujourd'hui aux Champs-Élysées. « Dans le pavillon du soleil, les simples contemplaient dans un silence religieux un bizarre ornement qui avait un grand air d'astrologie. Je parle des globes énormes de Coronelli, maintenant à la bibliothèque. Le roi avait dans l'un la terre et dans l'autre le ciel. Il tournait à son gré la machine ronde. Ces magiciens, pour lui, avaient fait l'incroyable. Dans les viviers de marbre, on voyait les carpes royales se promener à travers les fresques et nager entre les peintures des grands maîtres. Des arbres de Hollande, tout venus, gigantesques, sur l'ordre de Louvois, avaient fait le voyage. Ils mouraient, d'autres revenaient. Plusieurs qui cependant avaient subi cette tyrannie, esclaves résignés, verdoyaient tristement. Avec ces terribles efforts, ces laborieux enchantements, on serait mort d'ennui à Marly, sans le jeu. On n'avait pas la ressource de la dévotion et des longs offices. Les filles du roi, désordonnées, rieuses, mais contenues sous l'œil de Madame de Maintenon, s'étaient jetées sur la roulette, le grand jeu à la mode. La dame aux coiffes noires tâchait de détourner de ce païen Marly vers les pieux amusements de Saint-Cyr. Il fallut cependant le grand coup d'Angleterre, la dévote cour de Saint-Germain, pour changer le roi tout à fait. Et décidément, le tourner du profane au Santissimo.
Vous venez donc d'écouter l'émission « Les académiciens racontent l'histoire » qui vous a proposé des lectures de textes extraits des chapitres 1 et 2 du livre « La France de Louis XIV » écrit par l'historien académicien Pierre Gaxotte, ainsi que des lectures de textes extraits de « L'histoire de la France au XVIIe siècle, Louis XIV et la révocation de l'édit de Nantes, volumes 13 et 14 », cette fois écrit par l'académicien historien Jules Michelet. La lecture des textes de Pierre Gaxotte a été assurée par Michel Girard, comédien, celle des textes de Jules Michelet par Arnaud Victor. Le choix des textes a été effectué par Daniel Jeanne, montage, mixage, Zachary Beauvarlet et Jérôme Le Baron, réalisation Virginia Crespo.